Bonjour, on vient de découvrir le passionnant film « Ceux qui travaillent » du Suisse Antoine Ruschbach. Olivier Gourmet y incarne un cadre supérieur entièrement dévoué à son travail dans une grande compagnie de fret maritime. Est-ce que ce premier film fait partie d'un triptyque ?
Oui, alors en fait, je crois que le terme technique, c'est un triptyque. Parce qu'en fait, les personnages ne se retrouvent pas d'un film à l'autre et il n'y a pas de rapport entre les trois histoires. Mais ce qui sera commun, c'est le ton et la manière de regarder la société. Et ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, c'était en fait un film que j'avais commencé à écrire comme étant un seul film, très long, très complexe. Ça faisait référence à la construction de la société médiévale, avec ceux qui travaillent, qui étaient les paysans, le tiers-état, ceux qui combattent, qui étaient les nobles, qui nous défendaient, et ceux qui prient faisaient référence au clergé, qui était qui s'occupait de notre vie spirituelle. Et la question, c'était de se demander qui aujourd'hui nous nourrit, nous protège et s'occupe de notre vie spirituelle. L'ambition de ce premier projet était aussi de questionner la place de l'individu dans la société contemporaine, c'est-à-dire que contrairement à une société traditionnelle où chacun connaissait sa place très clairement, aujourd'hui le prix de la liberté, le prix de vivre dans un monde démocratique, c'est celui de ne pas être certain d'avoir trouvé sa place. Et il y a une angoisse qui vient avec ça, parce qu'on, où qu'on soit, on nous dit que l'on pourrait faire mieux. Et aussi on doute beaucoup aujourd'hui du rôle qu'on peut avoir, l'individu doute du rôle qu'il peut avoir dans le collectif. Et donc cette angoisse-là était le sujet de ce projet initial, qui était un projet qui était en fait trop long, trop compliqué à faire, à financer, et dont la forme était aussi peut-être un peu galvaudée, ce film choral, comme ça on a déjà vu quelques-uns. Et finalement j'ai décidé d'en faire trois films, autonomes. Et au moment où j'ai voulu écrire « Ceux qui travaillent », j'ai embauché mon co-scénariste qui s'appelle Emmanuel Marr, et on a retravaillé le projet pour en faire un film. D'ailleurs, qui répond toujours à la question de qui nous nourrit aujourd'hui. Et donc, c'est un film sur la consommation. On s'est demandé qui, littéralement, remplit les rayons de nos supermarchés avec de la nourriture. Ça, c'est un des points de départ du film.
Papa, tu manges avec nous ?
S'il te plaît. Et pour une fois que t'arrives plus tôt.
Toi, tu prends un risque courageux pour eux. C'est comme ça qu'ils te remercient.
T'attends quoi pour me dire ce qui se passe ?
T'as au moins intérêt à assurer avec l'argent. D'accepter de vivre sans père, mais on n'acceptera pas de changer notre niveau de vie.
Ça tombe juste au bon moment, nous avons besoin d'un nouveau responsable des ventes.
En me demandant qui nous nourrit, je me suis rendu compte que derrière tout ce qu'on consomme, il y a une énorme chaîne logistique. Il y a des camions, il y a des entrepôts, il y a des gens qui travaillent dans ces entrepôts. Il y a des caisses qui viennent des quatre coins du monde, qui sont transportées sur des navires. Et quand on va sur un port industriel, on se rend compte de l'énormité de cette structure logistique et à quel point on en dépend. Mais le travail que fait Franck dans le film, c'est celui de gérer ses navires. Et c'est très drôle parce que le film se déroule à Genève, de là où je viens, et on a beaucoup de compagnies maritimes qui ont leur siège chez nous. Alors qu'on n'a pas de mer, on est entouré de montagnes. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite amusé. Et effectivement, ça raconte un certain rapport aux choses, qui est une manière très intéressante de parler de la consommation, parce que les hommes qui font ce travail-là m'ont confié qu'ils doivent gérer ces navires, les mettre au bon endroit au bon moment pour faire un maximum de bénéfices. Donc c'est un travail qui est très prenant, très stressant. Et ils ont tendance à imaginer ces bateaux comme des points sur une carte, des petits points rouges sur une carte, et à oublier que derrière, il y a un vrai navire. Et c'est que de temps en temps, lorsqu'il y a un problème très concret, des imprévus, l'anniversaire du capitaine ou des rhinocéros qui montent sur le pont en Afrique, c'est des choses qui peuvent arriver, des containers qui tombent, et c'est là qu'on se rend compte que le navire est en fait très concret, très réel, et qu'ils avaient une espèce d'illusion de virtualité. Ce que je trouve très intéressant, parce que c'est quelque chose qui peut aussi nous arriver, nous, comme consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'imaginer que les rayons des supermarchés sont en interface et que derrière, il n'y a rien, que tout est virtuel derrière. Or, c'est faux. Et croire ça, ce serait aussi croire que la violence qu'il peut y avoir derrière nos actes de consommation est aussi virtuelle, ce qui serait très grave, parce que c'est faux. Le film nous donne à voir ce rapport à l'invisible. On se rend compte que derrière ces points, il y a tout un monde.
On dirait que le scénario, il était vraiment cosy pour Olivier Gourmet, qui est le personnage Franck. Donc vraiment, tout autour de lui, le personnage, pour nous, autant que spectateurs, c'est évident.
Alors oui, a posteriori, quand on le voit dedans, on se dit que c'était fait pour lui. Et pourtant non, c'était un scénario qui a été écrit, on en avait parlé d'Olivier Gourmet, on en avait parlé d'autres aussi, au moment de l'écriture on s'imaginait plein de potentiels Franck. Et je trouve que c'est important quand on écrit de ne pas penser à un comédien spécifique, parce que c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que la personne dise non. le risque, c'est de trop projeter un film qui sera impossible à faire. Si la personne refuse, c'est vraiment trop triste. Et en plus, c'est un exercice extraordinaire de se dire, voilà, si je pense scénario et je mets telle personne, qu'est-ce que ça fait ? Et effectivement, une fois que je me suis imaginé le film avec Olivier Gourmet dedans, une fois qu'il était écrit, fini, le personnage lui ressemblait tellement que j'avais peur qu'en allant le voir, il croit que j'avais lu sa page Wikipédia et que j'essayais de copier des trucs de son milieu d'origine. J'étais même presque gêné. Mais après, cette proximité-là, elle était... Il n'est pas du tout comme le personnage, c'est pas ça. Oui, il y a eu une rencontre, en tout cas. Il correspondait très très bien à ce personnage-là. Et je pense qu'il l'a senti parce qu'il avait envie de... Il avait très très envie de jouer ce rôle-là.
La mondialisation de notre époque, en fait, on sent qu'il y a un incident qui se passe en Afrique, en fait. Il y a un incident directement sur une famille en Europe. Donc ça, c'est le résultat de la mondialisation, en tout cas.
C'est ça, le film en tout cas ouvre, parle de ça, parle de la violence qu'il y a derrière ce système mondialisé, mais c'est une violence qui n'est jamais chez nous. C'est une violence qui se passe à l'autre bout du monde, qui agit sur des gens que l'on ne voit jamais, que l'on ne connaîtra jamais. Et la question terrible que pose le film, c'est est-ce que nous nous préoccupons réellement de cette violence-là ? Ou est-ce que nous décidons de fermer les yeux ? Et par quel mécanisme est-ce que l'on se donne bonne conscience ? Comment est-ce qu'on s'imagine que nous ne sommes pas responsables de cette violence-là ?
Est-ce que vous avez envie de continuer ? Vous n'avez pas fini avec ce sujet ?
Tous mes films, enfin, j'ai fait deux courts-métrages. Il y en a un qui se passait effectivement dans un milieu plutôt bourgeois, dans l'univers des écoles de commerce. Donc c'est, oui. Ça, il peut y avoir peut-être un lien dans l'univers. Mais l'autre court-métrage se passait dans des HLM, c'était différent. Et je ne pense pas que ce soit vraiment ce sujet-là qui soit la chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de questionner le monde et de questionner la nature humaine. C'est-à-dire que tous les personnages... J'aime les personnages qui commettent une erreur, les personnages qui se trompent et qui se retrouvent enfermés dans leurs mensonges, dans leurs erreurs, et d'avoir un cinéma aussi qui questionne le rôle que l'on a dans le rapport entre l'individu et le collectif. Donc c'est plutôt ça qui me meut, et c'est ce que je vais continuer à faire, en tout cas dans ces trois films, c'est de faire le lien que les individus peuvent avoir avec le monde, pour questionner l'un et l'autre, voilà, la nature des individus et aussi le fonctionnement du monde. J'ai pas de désir de faire des choses plus romanesques. Alors non, c'est pas du tout au tournage que ça se décide. C'est-à-dire que un silence qui n'est pas prévu, c'est vraiment très très ennuyeux, quoi. C'est-à-dire que un silence qui est juste vide, c'est infernal. On peut pas supporter 3 secondes de ça dans un film. Alors pour pouvoir avoir un silence qui soit plein, il y a du travail d'écriture derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit chargé. Mais il ne peut pas être chargé de ce qu'il y a dans la scène, parce que dans la scène, il n'y a effectivement que le silence. Mais il doit être chargé de ce qu'il y a dans l'esprit de celui qui regarde. Et donc c'est ça qu'on installe quand on fait un film comme celui-ci. Et dans ceux qui travaillent, on a tout le temps matière à orienter le regard. C'est-à-dire que ces regards, ces silences sont toujours très chargés d'une question, chargés de quelque chose que nous on sait et que les autres personnages ne savent peut-être pas. Donc c'est comme ça qu'on fabrique, c'est un film qui est en fait très tendu, mais effectivement tendu dans les silences. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très conscient et très écrit.
Franck, père de famille, de 5 enfants, consacre sa vie au travail alors qu'il doit faire face à une situation de crise à bord d'un cargo. Franck prend seul et dans l'urgence une décision qui lui coûte son poste, profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné.
Qui a une part de violence en lui très forte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'est qu'efficacité, n'est que travail. Et il y a plein d'endroits où il y a une scène où il passe un test psychologique et on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas orienté sur les autres, qui est très efficace, qui est désagréable. Donc effectivement, en théorie, c'est quelqu'un qui n'est pas sympathique. Et la question du film, c'est est-ce qu'on peut malgré tout avoir de l'empathie pour lui ? Ce qui n'est pas la même chose que la sympathie, d'ailleurs. Et est-ce qu'on peut vivre avec lui et endurer avec lui ? Et ça, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que si la réponse est non, si on n'est pas capable d'empathie pour celui qui n'est pas comme nous, alors on est vraiment très mal barré. Parce que c'est un des seuls endroits où j'ai de l'espoir. Et en tout cas, le projet cinématographique derrière le film, il est là. C'est de dire, peut-on comprendre celui qui n'est pas comme nous ? Et c'est une question qui s'applique au protagoniste du film. Peut-on l'aimer et le comprendre ? Et je pense qu'on finit par se rendre compte à quel point, et c'est ça qui est terrible, il est proche de nous. Parler d'une victime à l'autre bout du monde, est-ce qu'on est aussi capable d'avoir de l'empathie pour cette personne, pour celui que l'on ne voit pas, qui est à l'autre bout du monde. C'est la même question, en fait. Voilà, de savoir si on est capable de vivre dans le même monde aussi. Franck, c'est un cadre supérieur, c'est quelqu'un qui représente le système capitaliste, qui est qui accepte de porter le rôle, porter l'étendard du système capitaliste. Et pourtant, il ne fait qu'exécuter une demande. C'est-à-dire que c'est parce que nous, on veut consommer telle ou telle chose que des gens comme lui vont les affréter. Et donc, d'une certaine manière, si on se désolidarisait simplement de lui en disant que tout est de sa faute, ce serait extrêmement violent, parce qu'on se dédouanerait à très peu de frais en disant « Non, mais moi, j'y suis pour rien. » Or, c'est complètement faux. Étant donné que nous, on n'a pas à prendre position comme lui, on n'a pas à répondre à cette demande, on est doublement lâche. C'est-à-dire qu'on va lui demander de le faire pour nous, et en plus, on va se dédouaner ensuite.
Les gens qui travaillent au port, c'est un milieu qui est fermé quand même. On apprend beaucoup de choses. J'étais impressionné par les séquences, en fait, on passe d'une séquence à l'autre. Il aborde le problème de la famille, de la communication, de la personne en soi, de faire des enfants, qui est la responsabilité en tout cas.
Oui, parce que tout à fait, parce que le film, alors, on a parlé beaucoup effectivement de mondialisation, de consommation, mais c'était aussi important de voir comment tout ça affectait, nous s'incarnait dans l'intime. Et le film parle beaucoup de la famille que Franck a construit, du rapport qu'il a construit avec eux. Mais c'est un sujet qui est tout à fait le même, en fait, que celui de la consommation. Parce que ce qu'on questionne dans le film, c'est nos rêves, nos ambitions. Franck, c'est quelqu'un qui a cru en une promesse, qui est la promesse que nous propose ce monde de consumériste. C'est-à-dire, si tu travailles très dur, si tu sacrifies tout, tu auras tous les biens matériels que tu désires. C'est dans cette brèche que Franck s'est engouffré, parce qu'il vient aussi d'un milieu modeste, il a souffert du manque, il a honte de là où il vient, et il est extrêmement fier d'en être sorti. Mais en même temps, en suivant cette logique-là, il s'est créé une vie dans laquelle il n'a plus de place. C'est-à-dire que le travail a pris tellement d'espace dans son existence, et ce rêve-là a pris tellement de place dans son existence. De un, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui ne s'est pas demandé s'il était heureux depuis très longtemps. Et de deux, qui a construit un rapport avec ses enfants et sa femme qui ne passe que par l'argent, où il y a une carence affective terrible. Et paradoxalement, pour préserver ses enfants de la précarité, il en a fait des petits bourgeois que lui, il méprise. Il n'arrive pas à partager quoi que ce soit avec eux. Et c'est là où le film nous donne à nous demander, voilà, quand est-ce qu'on en aura assez? Est-ce que vraiment c'est ça qui compte? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se préoccuper de notre bien-être?
Moi, je le trouve justement très humain quand il rentre avec sa famille. Il demande toujours, il est proche d'eux. On lui demande quelque chose, il le fait, il va chercher sa fille à l'école, enfin, on lui demande beaucoup. Par contre, eux ne se demandent jamais, et moi, c'est la question que je me pose quand je vois des gens, ils gagnent de l'argent, enfin, on leur demande pas dans les familles d'où vient cet argent. Comment ça se fait qu'on est nourri? On est nourri comment? Le smartphone que tu m'as acheté, comment tu me l'as acheté? Avec quoi? Et en fait, dans cette famille, c'est ce qui se passe. Et dans le film, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de question. On a les choses qui nous arrivent directement dans l'assiette où on est des consommateurs, mais on ne se pose pas la question. Et en fait, ce film que vous avez vraiment réussi, parce que ce n'est pas du tout ennuyeux, c'est à se poser la question et à se dire, oui, autour de moi, je me rends compte que y a des gens, ils gagnent de l'argent, mais je ne sais pas d'où vient cet argent. En fait, si ça se trouve, ils sont comme Franck. Tous les jours, ils font des choses détestables.
Alors effectivement, mais ils sont aussi irresponsables. C'est-à-dire que Franck a fabriqué ce rapport-là avec eux. Il a été, je pense, quand même vraiment absent dans les choses les plus fondamentales. On voit qu'il est tout le temps sur son téléphone, qu'il est présent mais absent. Il est là mais il n'est pas là. En même temps, il se sacrifie pour tout le monde. Et ses enfants sont effectivement aussi responsables de ça.
Sa femme aussi.
Sa femme aussi. Et ils ont une forme de lâcheté qui est aussi la nôtre. Parce que nous non plus, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Personne ne veut visiter l'usine à saucisses.
Et on ne veut pas savoir. C'est ça qui est génial.
On critique tous le système. Et en même temps, on a tous un téléphone dans notre poche qui est fabriqué probablement avec des métaux rares qui sont collectés par des enfants dans des mines en Afrique et montés dans des usines en Chine qui sont dessinées par des architectes qui font... en général des eaux en Europe, pour pas que les employés se suicident. Mais bon, tout ça ne nous empêche pas d'en acheter un deuxième six mois plus tard. Et ces enfants, ils sont dans cette logique-là aussi, mais d'une certaine manière, ça se comprend, parce qu'ils sont comme nous. Mais effectivement, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas connaître. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué quand j'ai parlé avec des hommes qui avaient des postes de cadre importants. C'est que ils protégeaient beaucoup leur famille. Et la famille acceptait aussi d'être protégée de cette violence-là.
C'est pas quelqu'un qui va parler déjà d'avance. Il risque pas de parler de son travail, il risque pas de dire ce qui va pas et de dire ce qu'il va d'ailleurs, parce qu'en fait, il a pas envie de ça. Lui, il a juste envie de fonder sa famille, de ramener l'argent pour ses enfants, sa femme. Et...
Oui, tout à fait. En plus, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment communiquer. Mais je pense que même quelqu'un qui aime communiquer, qui a envie de communiquer, selon ce qu'il peut faire comme compromis au travail, va apprendre à ne plus parler du travail. Ou un autre cas de figure aussi que j'ai vu, c'est des gens qui font des boulots qui semblent tellement ennuyeux à tout le monde que leurs enfants n'ont aucun intérêt à écouter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce qui est très triste aussi. Mais voilà. Après, voilà, je pense que Franck ne s'est pas retrouvé dans une position où il allait, qui l'aidait à communiquer et à partager.
La petite, la dernière qui fait le lien, elle est toute innocente, elle est jeune et elle n'a pas ce rapport à l'argent. Peut-être qu'elle ne l'aura jamais parce qu'on a un peu d'espoir. On se dit, il y en a une qui n'aura pas ce rapport-là, c'est sûr, elle ne va pas être pareille. Et peut-être qu'elle ne va pas être pareille parce qu'on ne dit rien, mais voilà, elle le sauve un peu, il la sauve aussi quelque part. C'est un peu le lien... qu'ils ont tous les deux, j'ai l'impression.
Et c'est sa dernière fille, d'ailleurs. C'est ce qui l'a attaché à la vie, du coup.
Alors, effectivement, Franck a 5 enfants. 4 d'entre eux sont des adolescents, ou adultes. Et il y a la plus petite, qui a 9 ans. Et ce qu'on voit, c'est que avec tous les grands enfants, le rapport est déjà un cul-de-sac, c'est déjà un échec. Franck n'a pas été là quand il fallait. Et on voit bien qu'on lui en veut. Mais le film... ne pouvait pas en rester là parce qu'on aurait fait une représentation du monde où s'il n'y avait que ces 4 enfants, le film aurait dit d'une certaine manière qu'il n'y avait pas de futur, que tout était joué, que tout était foutu.
Oh, il y a de l'espoir.
Et alors, en tout cas, il y a un espoir à un endroit étrange parce qu'il y a cette fille qui est encore la plus jeune, Mathilde, elle a encore un amour inconditionnel pour son père. Elle a cet âge-là où elle a besoin de lui et elle l'admire, elle l'aime sans vraiment se poser de questions. Et d'une certaine manière, Franck pourrait la décevoir au même titre qu'il a déçu les autres. Mais il pourrait aussi être à la hauteur. Et c'est un endroit où les choses sont encore à jouer. Le rapport est à jouer et c'est important dans la représentation qu'on fait des choses parce que le film nous dit alors que tout n'est pas foutu, qu'on a... Parce que de dire que tout est foutu, ce serait trop facile parce qu'on n'aura plus qu'à baisser les bras,
oui,
attendre que ça passe. Alors que non, ici, d'ailleurs c'est faux dans le monde, on a encore... Il y a une génération qui vient après, on doit prendre nos responsabilités. Et le film nous dit qu'on est tous co-responsables du monde qu'on fabrique et nous invite à prendre nos responsabilités, ne serait-ce que pour la génération qui vient. On est obligé et le film ne nous dit pas si Franck est à la hauteur de cette responsabilité ou pas, mais c'est très important de dire que l'on a cette responsabilité.
Oui, ils l'ont tous en fait, ils l'ont tous, la famille là, ses collègues aussi, ils l'ont en fait. Lui, il porte tout sur ses épaules, mais en fait, normalement, enfin, ils devraient tous l'avoir, mais ils se déchargent.
Alors c'est ça, oui, tout à fait. Ce qui me fait très peur, c'est les endroits où on se désolidarise, où on pense que c'est que l'on a joué qu'un bon rôle dans l'histoire. Et il faut faire très attention à ça. C'est un message qui est en fait désespérant, de dire que l'on n'est que victime, que les méchants sont ailleurs. Parce que ça veut dire que déjà c'est une idée très triste, parce que ça veut dire qu'on n'a qu'à attendre, on n'a plus qu'à attendre de se faire écraser par les puissants et baisser les bras. Et je pense que dans l'idée qu'on soit tous responsables, c'est un petit peu culpabilisant, certes, mais en même temps, il y a l'idée qu'on peut encore, que nos actions ont un impact et qu'on a un pouvoir et des responsabilités. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est retrousser nos manches et prendre nos responsabilités.
En tous les cas, le film est réussi parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti qu'il y avait de l'espoir à la fin. En tous les cas, il y a de l'espoir. Et puis, même la façon dont c'est filmé, cette caméra qui suit toujours le personnage principal, elle le suit, mais en fait, elle le devance pas. Elle ne fait que le suivre. Alors, on ne peut pas savoir ce qui va se passer parce qu'elle le suit tout le temps. Elle ne le guide pas non plus. Elle est juste derrière lui, et on est avec lui, on est derrière lui, quoi. On le suit aussi.
Oui, tout à fait. Je parlais de responsabilité tout à l'heure, et c'est aussi la position que je donne aux spectateurs. C'est un cinéma où on donne des responsabilités à celui qui regarde.
Complètement.
C'est au spectateur de faire sens de ce qu'il voit. Et dans cet ordre d'idées, la caméra n'a pas le droit de précéder le personnage. Parce que si elle précédait le personnage, ça voudrait dire qu'elle sait où il va aller, elle sait ce qu'il va faire. Donc la caméra, le narrateur, connaît la vérité. Mmh. Et alors, si on a un cinéma qui nous suggère qu'il connaît la vérité, on n'a plus qu'à s'asseoir dans le fond de son siège et attendre qu'on nous serve la soupe. Et en fait, on devient alors consommateur de films. Et ça, et les films de divertissement, c'est la position dans laquelle ils nous mettent. Et puis c'est très agréable de temps en temps de se retrouver dans cette position. C'est très important aussi. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et ici, on est dans un cinéma qui est différent, qui nous dit plutôt, voilà, réveillez-vous, essayez de faire sens de ce que vous êtes en train de regarder, demandez-vous ce que vous en pensez.
Mais c'est quand même une vraie fiction, parce qu'on pourrait croire effectivement ça pourrait être très bien un reportage avec voilà, des noms professionnels. Là, c'est vraiment un vrai film avec des comédiens qui jouent tous très juste, très bien. Même les tout petits rôles, c'est extrêmement juste. C'est parfait pour moi au niveau du jeu d'acteur, en tous les cas.
Oui, c'est ça, c'est effectivement de la vraie fiction de cinéma,
oui.
Avec des éléments du langage du documentaire. Et là où c'est vraiment de la fiction, c'est que le but n'est pas uniquement de parler du réel. C'est pas un travail de reporter, c'est pas un travail qui nous dit c'est comme ça la vie. C'est un travail c'est un objet qui plutôt questionne notre perception du monde, questionne ce à quoi on est prêt à croire. C'est quelque chose qui doit être. On doit vraiment croire que c'est vrai, c'est ça. C'est beaucoup plus important de croire que c'est vrai que d'être vrai,
oui.
Journalistiquement. Parce que du moment qu'on croit que c'est vrai, on rentre dans un... On peut se demander, voilà, pourquoi est-ce que je crois que c'est vrai ? Si on croit que c'est vrai, c'est qu'il y a une vérité derrière, déjà. Au moins celle de nos conceptions. Et en même temps, je me suis dit, voilà, comment se situer par rapport à cette tradition-là ? Parce que le film sur le trait, c'est un genre en soi. Et j'ai vraiment tenté de me positionner de la manière suivante, en me disant, en fait... On parle beaucoup d'une aliénation au travail qui est très verticale, qui est voilà d'une vision qui nous vient du marxisme en fait et qui est assez simple et qui est vrai et qui est traité et qui est très bien traité au cinéma. Mais que du coup je ne sentais pas que je devais retraiter encore une fois. Et c'est celle de dire simplement voilà le travailleur il est aliéné parce qu'il y a son patron qui l'oblige à faire des choses. Le système force l'individu à lui obéir. Qu'il est dans cette contrainte, et donc c'est souvent un personnage qui doit travailler, qui ne l'aime pas, et qui n'aime pas son travail, et qui est contraint. Et ce qui m'aurait gêné en faisant ça, c'est que j'aurais eu l'impression de dire simplement que les systèmes étaient simplement mauvais, et que l'individu était bon, qui est une représentation que je trouve un petit peu simple, et puis aussi, je comprends à quel point elle peut nous consoler, on peut se dire, ah ben oui, en fait, mais on tombe dans un rapport, on voit l'individu uniquement comme une victime. Je me pose beaucoup la question de comment est-ce qu'on peut dépasser ça. Et la représentation que je fais dans mon film, c'est quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que je me demande, et c'est quelque chose que j'avais observé chez les travailleurs en col blanc que j'avais rencontré, parce que cette logique-là, elle s'applique plutôt dont je parlais tout à l'heure, s'applique plutôt aux travailleurs en col bleu, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était que les hommes que j'ai rencontrés avaient l'illusion d'être leur propre chef. Ils avaient ils avaient leur propre portefeuille à gérer, ils avaient leurs propres horaires à faire, ils avaient l'impression de ne pas avoir de supérieur, alors qu'ils en avaient. Et en fait, l'aliénation au travail, elle se fait de manière beaucoup plus sournoise dans ce cas-là, parce que on attend du travailleur en col blanc qui précède la demande de l'entreprise. Et donc, la décision que prend Franck, personne ne l'oblige à la prendre. Ça vient de lui. Il a décidé de le faire. Et c'était important pour moi de ne pas tout mettre sur le dos du système. Et c'est comme ça qu'on rentre aussi dans une représentation des choses où on nous dit que les systèmes qui nous aliènent, parce qu'ils nous aliènent effectivement, sont aussi des systèmes que l'on construit. Et donc on a un rôle à jouer dans ce mécanisme-là, dans ce jeu-là. Et parce qu'il y a toujours ce mystère de dire, voilà, si on dit simplement que le système est mauvais et que l'individu est bon, on peut se demander comment ça se fait qu'une somme d'individus bons ait construit un système mauvais. Alors d'où vient le mal ? Alors que dans la représentation qu'on a ici dans le film, c'est l'idée, c'est plutôt de dire que les vices du système sont peut-être la projection ou l'agrandissement de notre humanité collective, de nos désirs collectifs, de nos vices collectifs, de nos peurs collectives. Et quand on regarde les systèmes sous cet angle-là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'on a un rôle à jouer dans ce qu'on a construit. On doit se demander, est-ce qu'on est d'accord avec cette construction que l'on a faite ? Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger aussi, nous, sur nos peurs, nos désirs, nos ambitions ? Il a précédé la demande. Après, l'entreprise en question est extrêmement hypocrite parce qu'on lui reproche d'avoir précédé la demande, mais en réalité, on se rend assez vite compte qu'il a effectivement fait ce qui a arrangé tout le monde et que on le lui reproche très hypocritement. Donc c'est très compliqué.
Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe en France actuellement, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus, ça, il y avait 6 ans de ça. Et en plus de ça, on veut casser le contrat à CDI, en fait. Et c'est ça qui pose problème par rapport à des sociétés pour se maintenir.
Oui, on pourrait même réfléchir aussi à voilà, le film a été tourné il y a longtemps, écrit il y a encore plus longtemps, mais l'explosion du... Enfin, l'ubérisation du travail, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on fait croire à tout le monde qu'ils sont leurs propres patrons. Et quels sont les dangers de ça?
Il y a aussi les embargos que les États-Unis imposent au monde.
Ah oui, bah hélas, le monde suit la même direction qu'il y a 3 ans. Donc voilà. Merci beaucoup.
Merci.